Chapitre 13. Sous une pluie battante, son carton à chaussures sous le bras, la main gauche bandée, Albert poussa la barrière qui ouvrait sur la petite cour où s'entassaient des jambages pleins, des roues, des capotes de fiacres crevées, des chaises cassées, des choses inutiles. On se demandait comment elles étaient arrivées là et à quoi elles pourraient servir. La boue envahissait tout, et Albert ne chercha même pas à recourir aux pavés disposés en damier, parce que les crues récentes les avaient repoussés si loin les uns des autres qu'il aurait fallu faire des bonds de cirque pour ne pas se mouiller les pieds. Il n'avait plus de caoutchouc depuis que le dernier avait rendu l'âme, et de toute façon, avec son carton rempli d'ampoules de verre pour exécuter des pas de danseuse, il traversa la cour sur la pointe des pieds et gagna le petit bâtiment dont l'étage avait été aménagé pour être loué 200 francs, une misère comparée aux loyers ordinaires à Paris. Leur installation ici avait suivi de peu le retour d'Édouard à la vie civile en juin. Ce jour-là, Albert était allé le chercher à l'hôpital. Malgré ses faibles moyens, il s'était fendu d'un taxi. On avait beau, depuis la fin du conflit, voir beaucoup de mutilés de toutes sortes, la guerre avait eu dans ce domaine aussi une imagination insoupçonnée, l'apparition de ce golem claudiquant sur sa jambe raide, avec son trou au milieu du visage, effraya le chauffeur, un Russe. Albert lui-même, qui avait pourtant rendu visite chaque semaine à son camarade à l'hôpital, en resta époustouflé. Dehors, ça ne produisait pas du tout le même effet qu'à l'intérieur. Comme si on baladait un animal de zoo en pleine rue. On fit tout le chemin sans un mot. Édouard n'avait nulle part où aller. Albert occupait alors une petite chambre, un sixième étage sous les toits traversé de courants d'air, avec les cabinets et un robinet d'eau froide dans le couloir. Il se lavait dans une cuvette et se rendait au bain public dès qu'il le pouvait. Édouard entra dans la pièce, ne parut pas la voir, s'assit sur une chaise près de la fenêtre et regarda la rue, le ciel. Il alluma une cigarette par la narine droite. Albert comprit instantanément qu'il ne bougerait plus de là et que cette charge allait rapidement devenir une vraie source de vie quotidienne. La cohabitation fut immédiatement difficile. La carcasse d'Édouard, immense, étique, il n'y avait que le chat gris qu'on voyait passer sur les toits pour être plus maigre, occupait à elle seule toute la place. La pièce était déjà petite pour un, pour deux c'était quasiment une promiscuité de tranchées, très mauvaise pour le moral. Édouard dormait par terre, sur une couverture, fumait à longueur de journée, sa jambe raide allongée devant lui, le regard tourné vers la fenêtre. Avant de partir, Albert lui préparait de quoi manger, les ingrédients, la pipette, le caoutchouc, l'entonnoir. Édouard y touchait ou n'y touchait pas. Toute la journée, il restait à la même place, une statue de sel. On aurait dit qu'il laissait filer l'existence comme le sang d'une blessure. Le voisinage du malheur est si éprouvant qu'Albert inventa vite divers prétextes pour sortir. En réalité, il allait simplement dîner au bouillon du Val, mais faire la conversation tout seul à quelqu'un d'aussi lugubre lui abîmait salement le moral. Il prit peur. Il interrogea Édouard sur son avenir. Où pensait-il trouver refuge? Mais la discussion, maintes fois commencée, s'achevait dès qu'Albert voyait l'abattement de son camarade, ses yeux mouillés qui étaient la seule chose vivante dans ce tableau désespérant, un regard éperdu qui exprimait une totale impuissance. Albert admit alors qu'il avait maintenant la charge pleine et entière d'Édouard, et pour un sacré bout de temps, jusqu'à ce qu'il aille mieux, qu'il reprenne goût à la vie, qu'il fasse de nouveau des projets. Albert estima la durée de cette convalescence en mois, se refusant à imaginer que le mois ne soit pas la bonne unité. Il rapporta du papier et des couleurs. Édouard esquissa un geste de remerciement, mais n'ouvrit jamais le paquet. Il n'avait rien d'un pique-assiette ni d'un profiteur. C'était une enveloppe vide, sans désir, sans envie, on aurait dit sans idée. Si Albert l'avait attaché sous un pont, comme un animal domestique dont on ne veut plus et qu'il s'était enfui à toutes jambes, Édouard ne lui en aurait même pas tenu rigueur. Albert connaissait le mot neurasthénie, il se renseigna, posa des questions ici et là, recueillit encore mélancolie, dépression, lipémanie. Tout cela ne fut pas d'une grande utilité, l'essentiel était sous ses yeux. Édouard attendait la mort, et quel que soit le temps qu'elle mettrait pour venir, c'était la seule issue possible. Moins qu'un changement, la transition simple d'un état à un autre, acceptée avec une patience résignée, comme ces vieillards silencieux et impotents qu'on finit par ne plus voir et qui ne surprennent plus que le jour où ils meurent. Albert lui parlait sans cesse, c'est-à-dire qu'il parlait seul, comme un vieux dans sa cambuse. « Remarque, j'ai de la chance !» disait-il à Édouard en lui préparant son mélange d'œufs et de bouillon de viande. « Rapport à la conversation, j'aurais pu tomber sur un mauvais coucheur, hein, avec l'esprit de contradiction !» Il tentait toutes sortes de choses pour dérider son camarade, parce qu'il espérait améliorer son état, et pour percer ce qui, depuis le premier jour, restait pour lui un mystère, comment ferait Édouard le jour où il voudrait se marrer? Dans le meilleur des cas, il produisait des roulements de gorge assez aigus, sorte de roucoulements qui vous mettaient mal à l'aise et vous donnaient envie d'aider, comme on prononce un mot pour dépanner un bègue bloqué sur une syllabe. C'était assez crispant. Par bonheur, Édouard en produisait peu, ça semblait le fatiguer plus qu'autre chose. Mais cette question du rire, Albert ne parvenait pas à la dépasser. D'ailleurs, depuis son ensevelissement, ça n'était pas la seule pensée frisant l'obsession. Outre la tension, l'inquiétude permanente et la crainte de tout ce qui pouvait survenir, il avait des hantises qu'il tournait et retournait sans cesse, jusqu'à l'épuisement, comme naguère l'idée fixe de recomposer la tête de ce cheval crevé. Il avait fait encadrer le dessin d'Édouard, malgré la dépense. C'était le seul élément décoratif de la chambre. Pour encourager son ami à se remettre au travail, ou tout bonnement à occuper ses journées, il se plantait parfois devant, les mains dans les poches, et l'admirait ostensiblement en disant que vraiment, vraiment, il en avait du talent, le Édouard, et que s'il avait voulu... Ce qui ne servait à rien, Édouard allumait une autre cigarette, narine droite ou gauche, et s'absorbait dans le spectacle des toits en zinc et des cheminées qui composaient l'essentiel du paysage. Il n'avait du goût à rien. Il n'avait fait aucun projet pendant tous ces mois d'hôpital où la plus grande part de son énergie était passée à s'opposer aux injonctions des médecins, des chirurgiens, pas seulement parce qu'il refusait son nouvel état, mais parce qu'il n'arrivait pas à imaginer le jour d'après, l'avenir. Le temps s'était arrêté avec l'éclat d'obus, brusquement. Édouard était pire qu'une horloge en panne qui, au moins, donne l'heure juste deux fois par jour. Il avait 24 ans, et un an après sa blessure, il n'était pas parvenu à redevenir quelque chose qui ressemblât à ce qu'il avait été, à restaurer quoi que ce soit. Il était longtemps resté interdit, tendu dans une attitude de résistance aveugle, comme d'autres soldats, à ce qu'on disait, demeuraient figés dans la position dans laquelle on les avait retrouvés, liés, recroquevillés, tordus. C'est fou ce que cette guerre avait pu inventer. Son refus s'était incarné dans la figure du professeur Maudret, un sale con à son avis, qui s'intéressait moins aux patients qu'à la médecine et aux progrès de la chirurgie. C'était sans doute à la fois vrai et faux, mais... Édouard n'était pas dans la nuance, il avait la tête trouée par le milieu et pas le genre d'humeur à peser le pour et le contre. Il s'accrochait à la morphine, il employait toute son énergie à tenter de s'en faire prescrire, s'abaissant à des stratagèmes indignes de lui, des supplications, des tricheries, des réclamations, des simulations, des chapardages. Il pensait peut-être que la morphine parviendrait à le tuer, je t'en fiche. Il ne m'en fallait toujours plus et à force de l'entendre tout refuser, les greffes, les prothèses, les appareils, le professeur Maudret avait fini par le foutre dehors. On se décarcasse pour ces types, on leur propose les dernières nouveautés de la chirurgie et ils préfèrent rester comme ils sont, ils nous regardent comme si c'était nous qui leur avions balancé un obus. Les confrères psychiatres, le soldat à la rivière en avait vu plusieurs, mais il ne leur répondait jamais, fermé, buté. Les psychiatres, donc, avaient des théories sur le refus entêté de ce genre de blessés. Le professeur Maudret indifférent aux explications, haussait les épaules. Il voulait consacrer son temps et sa science à des gars pour qui ça valait la peine de tant travailler. Il signa son bon de sortie sans même lui jeter un regard. Édouard quitta l'hôpital avec des prescriptions, une dose infinitésimale de morphine et des tas de papiers au nom d'Eugène Larivière. Quelques heures plus tard, il s'assit sur une chaise devant la fenêtre dans le minuscule appartement de son camarade et le poids du monde lui tomba sur les épaules comme s'il venait d'entrer dans sa cellule après une condamnation à perpétuité. Même s'il ne parvenait pas à aligner des idées, Édouard entendait Albert parler de la vie quotidienne, tentait de se concentrer. Oui, bien sûr, il fallait penser à l'argent, c'est vrai. Qu'allait-il devenir maintenant? Quoi faire de sa grande carcasse? Impossible de dépasser le simple constat, son esprit fichait le camp comme par les trous d'une passoire. Quand il revenait à lui, c'était déjà le soir, Albert rentrait du travail, où c'était le milieu de la journée, et le corps réclamait sa piqûre. Il faisait des efforts tout de même, il essayait vraiment d'imaginer ce qui allait se passer, il serrait les poings, ça ne servait à rien, sa pensée fluide, filait par le moindre interstice, s'enfuyait aussitôt, laissant le champ libre à des ruminations interminables. Son passé coulait comme un fleuve, sans ordre ni priorité. Ce qui revenait souvent, c'était sa mère. Il lui restait peu de choses d'elle, et le peu qui remontait, il s'y accrochait avec obstination. De vagues réminiscences, concentrées dans des sensations, un parfum musqué qu'il tentait de retrouver, sa coiffeuse rose avec son pouf à pompons et ses crèmes, ses brosses, le velouté d'un satin qu'il avait agrippé un soir qu'elle se penchait sur lui, ou le médaillon en or qu'elle ouvrait pour lui en s'inclinant comme pour un secret. En revanche, rien ne lui revenait de sa voix, rien de ses mots ni de son regard. Sa mère avait fondu dans son souvenir, subissant le même sort que tous les êtres vivants qu'il avait connus. Cette découverte le terrassa. Depuis qu'il n'avait plus de visage, tous les autres visages s'étaient effacés. Ceux de sa mère, de son père, ceux de ses camarades, de ses amants, de ses professeurs, celui de Madeleine. Elle revenait beaucoup, elle aussi. Sans son visage, ce qui restait, c'était son rire. Il n'en connaissait pas de plus étincelant. Édouard avait fait des folies pour entendre ce rire et ce n'était pas très difficile. Un dessin, deux grimaces, la caricature d'un domestique, eux-mêmes riaient parce que Édouard n'avait jamais de méchanceté, ça se voyait. Mais surtout, les déguisements pour lesquels il avait un goût immodéré et un incomparable talent, cela tourna bientôt au travestissement. Au spectacle du maquillage, le rire de Madeleine se fit emprunter, pas pour elle, non, mais à cause de papa, disait-elle, s'il voyait cela. Elle tâchait de veiller à tout, au moindre détail. Parfois, la situation finissait par lui échapper. C'était alors des dîners glacés et pesants, parce que Édouard était descendu en faisant mine d'avoir oublié d'essuyer le rimmel de ses cils. Dès qu'il s'en apercevait, M. Péricourt se levait, posait sa serviette et demandait à son fils de sortir de table. « Hein? Quoi ?» s'écriait Édouard, l'air faussement offusqué. « Qu'est-ce que j'ai fait encore ?» Mais là, personne ne riait. Tous ses visages, jusqu'au sien propre, avaient disparu. Il n'en restait aucun. Dans un monde sans visage, à quoi s'accrocher, contre qui se battre? Ce n'était plus, pour lui, qu'un univers de silhouettes décapitées où, par un effet de compensation, les proportions des corps étaient décuplées comme celles massives de son père. Les sensations de sa petite enfance émergeaient comme des bulles, tantôt le délicieux frisson de crainte mêlé d'admiration à son contact, tantôt cette manière qu'il avait de dire en souriant « N'est-ce pas, fils ?» en le prenant à témoin dans des discussions d'adultes et pour des choses qu'il ne comprenait pas. On aurait dit que son imagination s'était appauvrie, ravalée à des images toutes faites. Ainsi, parfois, son père lui apparaissait précédé d'une ombre vaste et dense, tel l'ogre dans les albums. et le dos de son père, ce large et terrible dos qui lui avait semblé gigantesque jusqu'à ce qu'il soit aussi grand que lui, qu'il finisse par le dépasser, ce dos qui, à lui seul, savait si bien exprimer l'indifférence, le dédain, le dégoût. Édouard avait autrefois haï son père, c'était terminé. Les deux hommes s'étaient rejoints dans un mépris devenu réciproque. La vie d'Édouard s'effondrait parce qu'elle n'avait même plus la haine pour se soutenir. Cette guerre-là aussi, il l'avait perdue. Aussi, les jours filaient à ressasser des images, des peines. Albert partait et rentrait. Quand il fallait discuter, Albert voulait toujours discuter. Édouard émergeait de son rêve, il était déjà 20 heures. Il n'avait même pas allumé la lumière. Albert s'activait comme une fourmi, parlait avec beaucoup d'entrain. Ce qui ressortait surtout, c'était qu'il y avait des difficultés d'argent. Albert prenait d'assaut tous les jours les baraques Villegrain que le gouvernement avait mises en place pour les plus démunis et disait que tout fondait à une vitesse folle. Il n'évoquait jamais ce que coûtait la morphine, sa manière à lui de se montrer délicat. Il parlait de l'argent en général, mais d'un ton presque joyeux, comme s'il s'agissait d'un embarras temporaire dont on s'amuserait plus tard, comme, au front, pour se rassurer, on faisait parfois de la guerre une simple variante du service militaire, une corvée pénible qui finalement laisserait de bons souvenirs. Pour Albert, la question économique allait heureusement être réglée, une affaire de délai, rien d'autre. La pension d'invalidité d'Édouard allait soulager la charge financière, permettre de subvenir aux besoins de son camarade. Un soldat qui avait sacrifié sa vie pour la patrie et serait à tout jamais incapable de reprendre une activité normale, un de ceux qui avaient gagné la guerre, qui avait mis l'Allemagne à genoux, c'était un sujet sur quoi Albert ne tarissait pas. Il additionnait la prime de démobilisation, le pécule, la prime d'invalidité, la rente de mutilé. Édouard fit non de la tête. Comment ça, non ? Demanda Albert. Voilà, pensa-t-il. Édouard n'avait pas mené les démarches, il n'avait pas rempli ni renvoyé les papiers. Je vais le faire, mon grand, dit Albert, t'inquiète pas. Édouard fit de nouveau non de la tête. Et comme Albert ne comprenait toujours pas, il approcha l'ardoise de conversation et écrivit à la craie « Eugène, la rivière ». Albert fronça les sourcils. Alors Édouard se leva, exhuma de son havresac un imprimé froissé intitulé « Constitution d'un dossier de gratifiable ou de pensionnable » avec la liste des documents à fournir pour passer en commission. Albert s'arrêta sur les pièces soulignées en rouge par Édouard lui-même. « Certificat d'origine de blessure ou de maladie, relevé des premiers registres médicaux d'incorporation et d'infirmerie, fiche d'évacuation, billet de première hospitalisation. » Ce fut un sacré choc. C'était pourtant évident. Aucun Eugène Larivière n'était répertorié comme blessé à la côte 113 et hospitalisé. On devait bien trouver un Édouard Péricourt évacué et mort ensuite de ses blessures, puis un Eugène Larivière transféré à Paris. Mais la moindre investigation administrative allait montrer que cette histoire ne tenait pas debout, que le blessé hospitalisé, Édouard Péricourt, n'était pas le même que celui, Eugène Larivière, qui était sorti de l'hôpital 2 jours plus tard pour être transféré à l'hôpital Rollin de l'avenue Trudaine. Il serait impossible de fournir les documents exigés. Édouard avait changé d'identité, il ne pouvait plus rien prouver, il ne toucherait rien. Si l'enquête remontait plus loin, jusqu'au registre, jusqu'au subterfuge, au faux en écriture, c'était même la prison à la place de la pension. La guerre avait formé l'âme d'Albert au malheur, mais cette fois, anéanti, il ressentit cette situation comme une injustice, pire, comme un désaveu. « Qu'est-ce que j'ai fait ? » se dit-il, affolé. La colère qui bouillonnait en lui depuis sa libération explosa d'un coup. Il donna un violent coup de tête dans la cloison. Le cadre, avec le dessin du cheval, tomba. Le verre se fendit par le milieu. Albert se retrouva assis par terre, assommé, et porta une bosse au front pendant près de 2 semaines. Édouard avait encore les yeux mouillés. Or, il ne fallait pas trop pleurer devant Albert parce qu'en ce temps-là, sa situation personnelle lui tirait déjà facilement les larmes. Édouard le comprit. Il se contenta de lui poser la main sur l'épaule. Il était terriblement désolé.